Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
What time is it?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 645 du podcast John Actu, 646 même, je ne sais plus, je commence à m'embrouiller avec tous ces épisodes. Bonjour Victor Roulier.
Et bonjour Alain, bonjour à tous.
645, voilà, j'ai un trou, je me demande si je ne me suis pas embrouillé. Bon bref, comment ça va Victor?
Bah écoute, ça va très bien, encore une belle semaine de NFL avec des résultats qui n'ont aucun sens. Et tu t'en rends encore plus compte quand t'es sur M6 comme j'ai été, puisque tu regardes pas les résultats en fait et tu les découvres à 22h et tu te demandes ce qui s'est passé quoi.
T'as vu, c'est bizarre hein, de sortir de la cabine en ayant été totalement isolé des 6 ou 7 autres matchs qu'on lui.
Oui, complètement.
Donc ouais, c'est vrai que ça a été bon, première réussie, t'es content, on en parlait un peu en antenne Victor, mais
ouais, très content.
Sachez que Victor sort de sa première sur Sisplay et que vous le retrouverez plus tard dans la saison. On sera ensemble d'ailleurs. On se retrouvera le 22 octobre. En attendant, ce sera Grégory et Lucas à nouveau le dimanche 15 octobre, toujours à 19h évidemment. Victor, on va parler d'une équipe qui domine, une équipe qui survit et une autre équipe qui s'amuse. C'est le programme du jour et on va commencer tout de suite ce 646, c'était bien 646, pas 645, je vais vérifier dans l'intervalle, entre les 49ers et les Cowboys, 42-10, c'était le choc de la semaine, il a tourné à la démonstration. Les 49ers sont rapidement menés 14-0, 21-7 à la pause, 28-10 à la fin du troisième quart, 42-10 à la fin. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant chez les 49ers pour toi, l'attaque ou la défense?
Ah, bonne question. Je pensais pas que tu allais le formuler comme ça. Sur ce match, je dirais quand même l'attaque. Parce que, l'attaque des Cowboys, ça n'a pas tellement été testée cette année. C'était son premier vrai test. Donc, on peut pas non plus dire que c'était une attaque établie. La défense des Cowboys, elle a quand même fait performance sur performance depuis le début de la saison. Donc, c'était quand même un groupe qui était censé être absolument terrifiant, avec des pass rushers qui étaient censés profiter d'une ligne peut-être théoriquement un peu plus faible des Niners pour leur mettre la pression, etc., etc. La réalité, c'est que tu as dit, les Niners se sont baladés du début à la fin. Il n'y a même pas une match, c'est presque une déception pour les supporters neutres. On attendait une grande fête du football et finalement, ça a été une démonstration.
Ouais, énorme démonstration. Et au niveau de l'attaque des 49ers, c'est un Brock Purdy quand même sur lequel il faut revenir, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tant parlé que ça de lui depuis le début de l'année. On disait beaucoup au début de la saison qu'on attendait de voir ce qu'il allait confirmer. 17/24, 252 yards, 4 touchdowns, aucune interception, un seul sac encaissé. C'est ultra propre et ça fait 10 victoires en autant de matchs de saison régulière pour lui. Il est invaincu en saison régulière depuis qu'il a commencé sa carrière. Et en fait, sa seule défaite, même si on prend les playoffs, c'est quand même une finale de conf où il se blesse. Donc c'est assez délirant. Et en fait, Purdy, il est quand même en train de devenir, je vais pas dire une star, mais c'est quand même en train de devenir un point fort à part entière de cette attaque, non?
Oh, si, tu peux dire une star. Aujourd'hui, je pense que Purdy il est en train de faire mentir ses détracteurs, dont je fais partie, hein, je l'avoue humblement, dont je faisais partie en tout cas avant le début de la saison. Là, clairement, match après match, il est en taille patron. Hein. Il est en taille patron parce qu'il réussit vraiment à s'adapter. Et ce que je trouve formidable, c'est que on sent que le plan de jeu est taillé pour lui, mais exécuter, ça reste quand même pas évident. Si tous les quarterbacks avaient exécuté un plan de jeu, ça se saurait. Et là, clairement, il sait travailler avec ses forces. Il fait briller Kittle sur ce match-là. Il a fait briller Ayuk ou Samuel avant. Si tu veux, ça fait partie de ces grandes équipes qui ont tellement de talent que même avec un match entre guillemets moyen de Samuel et de Ayuk et de même de McCaffrey par rapport, on va dire, à ses standards, bah, les stars qui ressortent, c'est Purdy et c'est Kittle. La semaine prochaine, ça sera peut-être McCaffrey et Ayuk. C'est vraiment une ribambelle de stars, mais oui, Purdy aujourd'hui, il est au même niveau que les autres. Il n'est plus en retrait comme on a pu le mettre à une certaine époque.
C'est bien formulé parce que en effet, il est hyper bien entouré. Tu l'as dit, Kittle, Ayuk, Samuel, c'est un peu à tour de rôle, etc. Et il est dans les conditions idéales pour réussir. Évidemment, il y a une bonne ligne, il y a des super coureurs, il y a McCaffrey, etc. Mais en même temps, voilà, ça aurait pas été le premier quarterback qui est dans des super conditions et qui n'y arrive pas. Et même si tu regardes avant lui, Trey Lance, il n'y est pas arrivé aussi bien. Jimmy Garoppolo n'était pas aussi régulier. Donc, il s'est mis au niveau, comme tu le dis. Et la défense de Dallas, tu le disais, est très bonne. Et pourtant, elle s'est fait rouler dessus, parce qu'il y a, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'autre mot, ça aurait pu être pire encore et encore. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux, en fait, Dallas? Comment tu stoppes cette équipe des 49ers?
Là, c'est assez difficile à dire, parce que, comme je le disais, ils stoppent McCaffrey. Ils stoppent McCaffrey, encore une fois, par rapport à ses standards. Hein, il y a plein de joueurs qui seraient contents de faire 51 yards à la course et 27 à la passe. Mais forcément, quand t'es Christian McCaffrey, t'en veux un peu plus. Mais ils ont identifié des faiblesses qui étaient au niveau du rideau défensif, notamment depuis la blessure de Diggs, et qui étaient aussi au milieu du terrain. Alors là où ils n'ont pas eu de chance quand même, c'est des blessures au niveau des Cowboys pendant le match. Mmh. Notamment Van Der Esch, ça ouvre un peu une brèche au milieu du terrain. Mais les Niners s'en ont profité. Écoute, c'est une des équipes les mieux coachées de la Ligue qui regorge de stars, donc c'est juste parfait.
C'est juste parfait. Ouais, c'est terrifiant, dit comme ça. C'est quand même, encore une fois, on est en prime time, c'est un gros match et ils ont déroulé parfaitement. L'attaque de Dallas, elle était quand même aussi censée être, alors tu disais, elle avait pas été testée, mais elle est quand même censée être plutôt bonne. Dak Prescott, Tony Pollard, CeeDee Lamb, enfin, il y a du matos. Et finalement, seulement 197 yards pour Dallas. C'est aussi pour ça que je demandais si la défense des 49ers n'était pas aussi impressionnante. À quel endroit ça commence à s'écrouler pour Dallas? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas pu prendre l'avantage un petit peu plus sur la défense des Niners?
Oui, cette défense des Niners, moi, je ne l'ai pas mis en premier parce que je trouve qu'elle est impressionnante chaque semaine, en fait. Peut-être ouais. Encore plus cette semaine, chaque semaine. En fait, ce qui était assez fou, c'est que cette équipe, elle épuise l'attaque. En la harcelant, en étant vraiment dans un pressing absolu du quarterback, des receveurs et tout. Et ils attendent erreur pour punir. D'ailleurs, il y a un fumble et trois interceptions dans ce match. Et dès qu'il y a une erreur, l'attaque est punie. C'est vraiment terrible parce que il faut être parfait pour aller mettre des points contre ces Niners. Parce que globalement, sur 11 joueurs, t'en as peut-être 8 qui ont niveau All-Pro. Et c'est terrifiant, en fait. C'est terrifiant. Parce que vraiment, je voyais, tu vois, sur Around the NFL, qui est un podcast officiel de la NFL, il disait ce matin, la conférence nationale, finalement, il n'y a que deux équipes, les Eagles et les Niners, et ils se retrouveront en finale de conférence comme l'année dernière. Pour l'instant, sur les 5 premiers matchs, les Niners, ils sont tout seuls au sommet. Hein. Même les Eagles, ils ne sont pas dans ce niveau de domination-là. Ils sont tout seuls sur le sommet d'Olympe. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est sur toutes les phases de jeu.
Tu l'as bien dit, la défense des Niners a limité le jeu au sol de Dallas à 57 yards avec 3 yards par course. Dak Prescott a été intercepté 3 fois. Dak Prescott qui était sous pression sur 37% de ses passes. Même sans être sous pression, de toute façon, il a été embrouillé puisqu'il y a deux de ses interceptions où il n'est pas sous pression. Il faut quand même revenir là-dessus aussi parce que ça devient, on appelle ça un marronnier dans le journalisme, hein, c'est un sujet qui revient tous les ans. Je prends un exemple, hein, les marchés de Noël, les trucs comme ça. Nous, notre marronnier, c'est aussi un peu Dallas qui craque dans un grand match. Est-ce que oui. C'est du Dak Prescott? Est-ce que c'est du coaching? Qu'est-ce qui se passe encore ce dimanche soir?
Difficile d'affecter la responsabilité, mais il est clair que Dak Prescott en est pas à son premier craquage mental. Et si tu veux, ils avaient perdu tout en étant valeureux en playoff l'année dernière contre les Niners. L'idée, c'était de voir s'ils étaient arrivés à un niveau suffisant pour les mettre en difficulté et pour éventuellement, s'ils se rencontrent en playoff, être au niveau. Bah là, pour l'instant, ils ne l'étaient pas du tout. Et c'est vrai que Prescott, il a été plutôt inquiétant. Il a un peu joué au héros par moment. Et en général, quand un quarterback veut jouer au héros, ça se passe rarement bien. Et forcément, en fait, plus il était sous pression, plus il fallait prendre des risques. Parce que pour essayer de revenir rapidement, pour essayer que le score ne se creuse pas, et finalement, c'est inverse qui s'est passé. Parce que c'était perte de balle sur perte de balle. Après, oui, McCarthy, qui a décidé de reprendre les rênes de l'attaque cette année, c'était son premier test. Bah, c'est un test raté. Ça, c'est sûr.
Est-ce que les 49ers sont la meilleure équipe NFL actuellement? Parce que je me tape dit NFC, oui, alors oui. Du coup, je rebondis.
Oui. Sur les 5 premiers matchs, c'est évident. Il y a un deuxième petit groupe dans lequel tu peux le mettre, les Dolphins, les Eagles, les Bills, qui tu veux. Mais pour l'instant, les Niners sont seuls devant.
Bah là, à partir du moment où tu as levé le doute, entre guillemets, sur Brock Purdy, c'est clair que je vois plus trop ce qui les sépare d'être l'effectif le plus terrifiant de la ligue. Donc on y est. Démonstration, en tout cas, cette semaine pour les 49ers. Moins démonstration, le match entre les Steelers et les Ravens. 17-10 pour cette équipe de Pittsburgh. Est-ce qu'on peut donner, Victor, le titre de MVP à toute la défense des Steelers, par exemple, ou à TJ Watt? Parce que là, on est quand même sur du sauvetage en règle, hein, pour du côté de Pittsburgh. C'est la défense et les équipes spéciales qui font le boulot.
Ouais, je sais même pas si c'est la défense ou l'attaque de Baltimore qui se tire des balles dans le pied. Mais c'est vrai que j'ai regardé ce match ce matin. Je ne comprends toujours pas comment Baltimore a perdu. J'arrive pas à procéder le truc. C'est-à-dire qu'ils mènent 10-3 au début du quatrième quart. Globalement, ils ont le match en main. C'est pas flamboyant offensivement, mais la défense de Pittsburgh, on découvre pas qu'elle est très bonne. Et dans les moments clés, bah, il y a ce fumble, il y a cette interception, il y a ce punt contré, etc. Et en effet, les Steelers grappillent point après point et ils gagnent le match sur un touchdown de Pickens, certes, mais cette longue passe de Pickett pour Pickens, c'est littéralement la seule bonne action offensive des Steelers sur ce match. Les Steelers gagnent un match en ayant fait une bonne action offensive. C'est incroyable et c'est déjà la deuxième fois que la défense gagne un match un peu à eux tout seuls, parce que contre les Browns, ça avait déjà été un peu le cas.
Bah, je parle de MVP parce que la défense des Steelers limite les Ravens à un seul first down sur toute la deuxième mi-temps. Et tu le disais, les trois dernières possessions des Ravens, c'est interception, fumble, échec sur quatrième tentative. Donc il y a eu clairement... En plus, tu le disais, en première mi-temps, ils sont plutôt à l'aise, mais ils ratent des occasions, mais il n'y a tellement rien en face qu'on se dit que ça va tenir. Après, il y a quand même des occasions ratées vraiment évidentes. Lamar Jackson n'a pas été aidé, il y a beaucoup de ballons relâchés, notamment trois qui doivent être... Voilà, il y en a trois qui doivent être des touchdowns, en fait. Donc, est-ce que Lamar Jackson est aussi mal entouré?
Ah là, sur ce match-là, moi, je ne mets rien sur Lamar Jackson. Bon. Parce que honnêtement, j'ai arrêté de compter à 7 drops, et je suis sûr qu'il y en a plus que ça. C'était hallucinant. Je pense que globalement, si les receveurs font le boulot, il y a 28 points et on n'en parle pas et ils ont gagné le match.
Bah, donc, d'autant que la défense fait le boulot, c'est ce qu'on disait. Tu vois, tu prends que 17 points, c'est pas insurmontable normalement en NFL, même face à une bonne défense.
Non, mais la défense fait le boulot, Lamar fait le boulot. Vraiment, là, c'est tout ce groupe de receveurs qui était quand même censé, on a recruté Beckham, on a Batman qui est revenu, on a drafté Flowers. Il y a encore du déchet, hein. Franchement, ça fait mal.
Bah, ce qui est pas étonnant, c'est que Flowers est déjà quasiment leur meilleur receveur. C'est-à-dire que Beckham, 2 réceptions 13 yards, Bateman, 1 réception 8 yards. Beckham, on se doutait quand même bien. Moi, j'ai pas trop compris l'engouement quand on parlait de son recrutement et l'an dernier quand il faisait miroiter à tout le monde qui avait signé. Il est quand même sur la fin plus que le début pour un receveur après une blessure au genou, etc. Après, Flowers, oui, il est ciblé 11 fois, il en prend 5. Donc, c'est.
Mais même Andrews, t'es pas habitué à le voir faire des drops aussi dégueux. Hein. Je suis désolé de dire comme ça, mais il n'y a pas d'autre mot. Moi, je trouve que les Ravens ont perdu ce match plus que les Steelers ne l'ont gagné.
D'un point de vue philosophique, j'ai vu le débat dans la rédaction, tu vas me dire ce que t'en penses. Bon là, on s'égare un petit peu, on sort de l'analyse concrète du match, mais est-ce que les Steelers s'en sortent bien? J'ai vu plusieurs personnes de la rédaction dire que c'est presque injuste parce qu'ils devraient être punis en fait pour ce niveau-là, et là ça va encore épargner Matt Canada une semaine, et ça va encore... Et il n'y a pas de justice, entre guillemets, pour la pauvreté du jeu offensif qu'ils proposent.
Bon, on a vu des équipes aller en play-off, enfin quasiment tous les ans, t'as une équipe moche qui va en play-off, hein. C'est faut accepter, ça fait pas... La défense c'est aussi important que l'attaque. Après il y a quand même cet événement un peu bizarre parce qu'il y a la caméra sur la zone des entraîneurs au moment du touchdown de la victoire et tout le monde célèbre sauf Canada qui fait la gueule. Et certains disent que c'est parce qu'il y a eu un audible et que du coup l'action aurait été changée. Bon bref. Mais c'est sûr que Canada, il faut toujours qu'il vire, hein. Je change pas.
Alors, en tout cas, est-ce qu'ils n'ont pas eu, si on cherche le positif, un petit aperçu de ce qu'ils pourraient / devraient faire, c'est-à-dire que bah il y a cette passe en profondeur. La bonne offensive, elle se termine par la passe de 41 yards pour George Pickens dont tu parlais. Sur l'action d'avant, il y a une passe de 21 yards aussi. Donc il y a quelques longues passes. On a vu Kenny Pickett peut les faire. Jalen Warren a montré des choses au sol beaucoup plus que Najee Harris. Est-ce que ça aussi c'est pas une piste de dire est-ce qu'on va pas donner un peu plus de boulot à Jalen Warren qui prend aussi 3 réceptions d'ailleurs, là aussi il est plus productif que Najee Harris. Il y a des pistes.
Alors le remplacement d'Harris par Warren, oui je suis d'accord, mais je suis pas sûr que à partir du moment où la ligne ne lui offre pas beaucoup de trous, ça reste difficile de performer. Moi honnêtement enfin toutes les équipes ont un bon drive dans un match quoi. Je vais pas commencer à m'enflammer parce qu'ils ont réussi 2 passes. Si vraiment tu t'enflammes parce qu'ils ont réussi 2 passes, ça montre justement le niveau de pauvreté dans lequel ils sont. Non, faut virer Canada le plus vite possible.
Je m'enflamme pas, mais tu vois, je veux dire, c'est justement, parce que c'est pas des pistes, quoi. Dans ce drive, il faut chercher ce qui a marché au bout d'un moment.
Oui. Bah, pas grand chose. Voilà.
J'essaie d'être positif. George Pickens termine quand même à 6 réceptions pour 130 yards et un touchdown.
George Pickens, c'est très bon.
T'as quand même un bon receveur quelque part.
Il faudrait
l'utiliser. C'est une drôle de division. Les deux équipes sont à 3 victoires et 2 défaites après ce match. Les Browns sont au repos, donc ils restent à 2 victoires, 2 défaites. Donc ça reste très serré. C'est un peu bizarre d'ailleurs à l'échelle de la division. Ils sont à égalité, mais on a quand même eu l'impression que si tu prends le long terme, les Ravens restent une équipe plus complète.
Oui, et puis là, les Bengals qui se sont relevés, ils ont beau être à 2-3. Je pense que la plupart des gens vont les considérer comme favoris. C'est vraiment une division qui peut aller dans tous les sens. Il y a pas encore de hiérarchie et il va encore falloir quelques semaines avant que ça se décante.
Ouais, ça peut aller vite. Ça va très vite aussi avec les Miami Dolphins qui affrontaient les New York Giants 31-16 pour Miami. Ça n'a pas été si facile que prévu pour Miami. Ils menaient 13-3 avec l'occasion de prendre le large, interception pour Tua Tagovailoa. Ils mènent 24-10 avec l'occasion de prendre le large, interception de Tua Tagovailoa. Finalement, ils s'en sortent. Tagovailoa a un peu souffert quand même, Victor, non?
Bah oui, c'est toute l'histoire de ce match. C'est-à-dire qu'ils font quand même 500 yards en attaque. Et ils font 3 pertes de balles, parce qu'il y a aussi un fumble de Devon Achen avant les 2 interceptions. Sachant que la première interception que tu as, en plus, c'est un pick six. Qui part de la end zone des Giants vers la end zone des Dolphins. C'est quasiment une action à 14 points. Oui, clairement, si les Dolphins avaient été un peu plus attentifs à ne pas perdre la balle, on parlerait pas de 31-16, on parlerait de 45-7, quoi. Après, bon, malgré tout, ils étaient largement supérieurs. Ils ont cette production statistique qui est effrayante, quoi. Tu sors du match, tu te dis, ah ouais, ils ont été bons, bon, voilà, il y a des petites choses qui n'ont pas été parfaites. 524 yards. Bon, bah, qu'est-ce que je te dise? Devon Achane, il a déjà le trophée de rookie offensif de l'année dans sa poche. Là, je pense qu'il peut aller à la plage, il l'a déjà. Donc, je sais plus quoi dire, cette équipe, elle est incroyable.
Tu parlais de statistiques effrayantes. 23 courses pour 222 yards et 2 touchdowns, ça veut dire 9,7 yards par course. C'est quasiment un first down par course.
Et encore, ça descend avec les courses pour manger l'horloge dans le quatrième. Parce qu'avec Lucas, on avait vu au début du quatrième, c'était 13.1. C'était 13.1, c'était du délire.
Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont à 9,7 yards par course et 10,3 yards par passe. Donc, ils sont quasiment aussi productifs, en fait, à la course qu'à la passe. C'est quand même assez incroyable ce que fait Mike McDaniel avec le jeu au sol. On le rappelle, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi, mais il était responsable du jeu au sol des 49ers. Je pense que vous pouvez voir à peu près pourquoi. Ça reste quelque chose d'assez délirant. Bon, la bonne nouvelle pour Miami, c'est aussi la défense. Ils ont bien profité d'une ligne des Giants qui est un peu à l'agonie, hein, qui a concédé 7 sacks. Daniel Jones est sorti sur blessure à la nuque. Est-ce que c'est produit de la qualité de Miami et on est content pour eux, ou alors on dit non, c'est pas significatif parce qu'en face il y a rien.
Alors, ça reste leur meilleure performance défensive de l'année. Et je pense qu'il faut jouer là-dessus dans le mental pour fédérer le groupe, etc. Cependant, je regarde la NFL depuis 24 ans maintenant. J'ai jamais vu une ligne comme ça. Vraiment, vraiment. Même l'époque texan de David Carr, on n'en était pas là, quoi.
Mais il y a des très mauvaises lignes cette année, je trouve.
Ah ouais, mais là, le pauvre Ezoudou qui s'est retrouvé tackle gauche pour remplacer Thomas. Écoute, entre les holdings, les sacks, on a compté au moins 4 holdings qui n'ont même pas été sifflés. Ils en sifflent 2 ou 3. Il était en souffrance, c'était terrible.
Le constat, il est là, mais dans ce cas-là, il y a quand même une responsabilité terrible du manager et des coachs, parce que, ok, t'as des blessés, mais ça veut pas dire que ton quarterback, il doit être en danger de mort. Au bout d'un moment, il y a plein d'équipes qui ont des blessés partout, dans plein de secteurs. C'est juste à mal composer et ou mal coacher ton effectif.
Bah, les Texans, ils ont 4 blessés sur 5 sur la ligne offensive et ils s'en sortent. Hein.
Voilà.
Donc, là, les Giants, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'en fait, avec la blessure d'Andrew Thomas, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de deuxième tackle gauche. Ezoudou, clairement, c'est censé être un garde. Bredesen, qui est censé être un garde, maintenant joue centre. Donc, les joueurs jouent même pas à leur position. Donc, c'est vraiment difficile pour eux de s'habituer. Et vraiment, moi, j'avais de la peine pour Daniel Jones. Parce que Daniel Jones, sur ce match, il est plutôt bon. Darren Waller aussi. Parce que Daniel Jones, dès qu'il a 2,5 secondes, il arrive à compléter la passe. Mais le problème, c'est qu'il y a des moments où il a même pas 2 secondes et il a pas un mec sur le dos, il a 2 mecs, 3 mecs. Il y a un moment, c'est bon, c'est trop, quoi. Je veux dire, moi, j'ai jamais été tendre avec Daniel Jones, mais qu'on lui mette pas ce genre de match sur le dos, parce qu'il y a un moment, tu te prends 300 kilos de viande sur le dos, toutes tes actions, c'est impossible de rester lucide, quoi. C'est trop.
Non, et on l'a vu, ça se termine avec une blessure, hein, donc c'est quand même très très compliqué. Tu peux même pas être aidé par le jeu au sol, parce que la ligne à la ramasse, c'est pas que pour te protéger, hein, évidemment, c'est aussi pour le jeu au sol. On parlait des 9,7 yards par course de Miami, là c'est 2,9 pour New York, donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a pas Saquon Barkley, tes receveurs en plus sont quand même pas, là Darren Waller lui offre un peu une bouée, quoi, avec 8 réceptions, mais... Moi, je reste aussi. C'est quand même une énigme. Alors, je sais que tu as donné un gros contrat à Daniel Jones et tout, mais j'aimerais quand même bien savoir où passe l'argent à New York et les drafts aussi, parce qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de receveur. Il y a juste Saquon Barkley qui a l'air d'être le seul skill player sur lequel il compte.
Il y a beaucoup de joueurs grassement payés en défense.
Oui, trop aussi.
Oui, peut-être trop, mais il y a...
Non, mais c'est quand même... il y a aussi la draft qui est là pour ça à un moment. C'est quand même dramatique qu'au final, Daniel Jones soit si peu entouré. On le savait déjà l'an dernier, parce que c'était une saison un peu en trompe-l'œil où ils ont quand même pas mal surperformé. Il y avait quand même encore énormément de trous dans cet effectif. Qu'est-ce qu'ils font pour entourer Daniel Jones au bout d'un moment?
De toute façon, c'est... Alors, je dirais qu'il y a deux cas de figure. Pour les receveurs, je trouve en effet qu'ils n'ont pas fait d'effort. Alors, le jour où ils ont fait un effort, c'était Golladay, on a vu ce que ça a donné. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas de bol. Mais quand on t'annonce que la recrue qui va changer tes receveurs cette année, c'est Paris Campbell, bon, tu vois, tu souffles. Hein. Ouais. Par contre, au niveau de la ligne, ils mettent un top 5 de draft sur Evan Neal. Ils mettent un top 5 de draft sur... Alors, d'ailleurs, je pense que Thibodeau est 5, donc Neal doit être 7. Enfin, un top 10 de draft, on va dire, sur Neal. Un top 5 de draft sur Andrew Thomas. Ils mettent un deuxième tour sur John Michael Schmidt. Il y a un moment, l'investissement au niveau de la ligne, il a eu lieu. Le problème, c'est que tous les paris sont perdants à part Andrew Thomas, quoi. Alors, John Michael Schmidt, on verra, hein, c'est un rookie qui joue ses premiers matchs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui quand même apparaît désastreux, c'est Evan Neal, quoi. Choisi au top 10. Evan Neal, c'est un joueur controversé. Et c'est toujours ce grand débat au niveau des tackles. Est-ce qu'il faut être physique ou est-ce qu'il faut être intelligent? Moi, je préfère les mecs qui sont techniques et intelligents. Ils ont préféré le physique Evan Neal. Bah écoute, ça fait partie de ces joueurs au QI football assez bas. Alors oui, ils ont des muscles, mais ça suffit pas forcément.
C'est marrant qu'il y ait encore ce genre de choix, parce qu'on a quand même souvent l'impression que ça tourne. Les projets physiques, j'ai pas l'impression que ce soit souvent couronné de succès, quoi.
Non.
Mais
non, et puis même le plafond d'un projet physique, c'est quoi? C'est Trent Brown, quoi. C'est pas non plus.
Ouais, c'est toujours étrange. Bon, c'est quoi les motifs d'espoir pour New York après 5 semaines? Allez, est-ce qu'il y a un truc que t'as vu dans ce match qui te donnerait un vague espoir?
Ah bah oui, il y en a un quand même, c'est qu'ils n'avaient pas provoqué une perte de base de la saison et qu'ils en ont provoqué 3. Ça, c'est quand même mieux. Le plaquage a été mieux, notamment en deuxième mi-temps. Okereke, la recrue au niveau des linebackers, a vraiment eu son match déclic. McKinney est un peu revenu dans le jeu aussi. Donc, les espoirs, ils sont plutôt en défense. Parce qu'elle est en train de retrouver un vrai rythme. Après, j'en suis à un point avec Miami où j'en veux même pas une défense de prendre 500 yards contre ces monstres. Hein, tu sais, je trouve malgré tout qu'ils ont provoqué les pertes de balles, ils ont fait le boulot. Par contre, en attaque, là aujourd'hui, les espoirs, le retour de Barkley, mais avec cette ligne, qu'est-ce qu'il va faire Barkley?
Il va rentrer. Une victoire, 4 défaites désormais pour les Giants. On est loin, loin de la saison. Un petit peu doré de l'an dernier, on est vite retombé.
Et c'est les Bills la semaine prochaine.
C'est ouais, Bills, Commanders, Jets, Raiders, Cowboys. Ouais, il y aura un peu plus de répit par moment, mais il y a encore les Eagles deux fois en fin de saison. Enfin là, de toute façon, on pense même plus aux playoffs, on pense plus à rien.
Bah, même un match contre les Jets, tu sais, la défense des Jets contre cette attaque, je suis pas sûr qu'ils marquent 10 points. Hein.
Ouais, c'est très 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 compliqué. Ils sont ils font partie d'un très gros groupe d'équipes à une victoire, 4 défaites, mais il y a que les Panthers qui sont pires à 0-5. Voilà, maintenant ils sont là, ils sont avec les Broncos, les Cardinals, les Patriots, les Vikings et les Bears dans ce groupe d'équipes à 1-4. C'est un peu l'état des Giants. Ça va être difficile. Ils savent au moins ce qu'il faudra renforcer pour l'année à venir, mais ça sent déjà mauvais pour cette année. Et c'est comme ça qu'on termine l'épisode 646 du podcast Touch on Actu. Merci beaucoup, Victor Roulier. On se retrouve demain avec Raphaël Masmejean et Grégory Richard, si je ne dis pas de bêtises, pour le débrief complet de la semaine. Vous retrouvez évidemment toute l'actu de la NFL sur tdactu.com. Merci beaucoup, Victor.
Merci Alain, merci à tous.
Ça va, tu reviendras nous voir encore maintenant que tu es une star de la télé. Hein.
Oui. Je viendrai vous voir, je prendrai mon jet et je viendrai vous voir.
Bon, ça marche. Merci beaucoup, Victor. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com